France Inter. Tahar Ben Jelloun et Inkoli Jean Bofane, bonjour à tous les deux. Pourquoi écrivez-vous Tahar Ben Jelloun ?
Je sais pas, parce que en tout cas, je sais que si je n'écrivais pas, je serais peut-être devenu un peu fou. Non, j'ai besoin d'écriture, c'est ma respiration.
Et vous, Inkoli Jean Bofane, pourquoi ?
Il faut savoir le pourquoi des choses. Et spécialement des tragédies qui jalonnent les destins des êtres humains. Voilà, il y a des choses que je veux savoir pourquoi. Pourquoi, warum ? Warum, comme on disait à Primo, et lui posait la question plutôt warum, et puis on lui répondait Eriskan warum.
Et donc, si voilà. Vous étiez un livre, quel en serait le titre, Jean Bofane ?
Les équilibres instables, c'était le titre provisoire du premier roman que j'ai écrit. L'éditeur l'a pas gardé.
Tahar Ben Jelloun, même question. Si vous étiez
les mille et une nuits.
Les mille et une nuits.
On peut tout mettre dedans. Et on peut tout retirer parce que c'est un des textes les plus extraordinaires avec des auteurs anonymes, qui est assez pornographique comme texte, assez subversif et en même temps assez extraordinaire. Donc c'est un livre infini et interminable, c'est magnifique.
Votre mot préféré de la langue française à tous les deux, Tahar Ben Jelloun ?
Le mot fertile.
Et le vôtre, Jean Bofane ?
Je ne sais pas pourquoi, mais disons le premier joli mot que j'ai entendu dans ma vie, c'était « vestale ». Moi, j'ai appris le français dans les bouquins, pas dans la rue ou pas dans la famille, mais dans les bouquins. Donc c'est « vestale », j'étais tout petit.
« Vestale ».
France Inter, Radio-Canada, RTS la première, RTBF la première, etc., Lilia Hassel.
Bienvenue dans l'émission Etc. Aujourd'hui, deux œuvres puissantes qui dissèquent chacune à leur manière les mécanismes d'oppression et de domination dans nos sociétés contemporaines. Deux œuvres écrites par des romanciers africains, le franco-marocain Tahar Ben Jelloun, prix Goncourt 1987, et l'auteur kino-congolais Inkoli Jean Bofane, grand prix littéraire d'Afrique noire en 2009. Dans son dernier livre et quatrième roman, Nation cannibale, Jean Bofane nous entraîne dans un univers où la violence politique et économique façonne des nations cannibales, des ogres qui se nourrissent de leurs propres citoyens. Son roman, profondément ancré dans la réalité africaine et haïtienne, dévoile une société gangrénée par la corruption et la prédation. Tahar Ben Jelloun, de son côté, dans la suite de son roman, Les Amants de Casablanca nous plonge dans les méandres des relations humaines au Maroc, où les carcans sociaux et les jeux de pouvoir enferment les individus dans des rôles qu'ils tentent de déconstruire. Mais au-delà de leurs différences de cadre et de ton, ces deux romans nous offrent un miroir saisissant des sociétés postcoloniales, où les puissants dévorent les plus faibles, où les femmes luttent pour exister et où l'exil apparaît souvent comme une ultime échappatoire. Alors peut-on réellement échapper à un système qui nous façonne malgré nous ? C'est à cette question que nous allons tenter de répondre aujourd'hui avec nos invités et nos libraires francophones qui seront présents comme chaque semaine tout au long de l'émission avec leurs questions et conseils de lecture. Vous écoutez Etc. C'est parti.
Etc.
Rebonjour à tous les deux, Tahar Ben Jelloun et Jean Bofane.
Oui, bonjour. Bonjour Lilia.
Pour commencer cette émission qui est diffusée, je viens de le dire, dans le monde francophone, j'avais une question à vous poser sur ce mot, justement, de francophonie. Qu'est-ce qui vous inspire ce terme, Jean Bofane ?
Disons, moi je suis assez pragmatique et la francophonie, c'est du soft power. Voilà, il faut parler de la France est puissante en Afrique parce qu'il y a beaucoup de locuteurs en français. Donc ça, c'est à travers la langue, on peut poser une pensée, on peut penser une réflexion. Donc voilà, c'est la France qui essaie d'étendre son influence. Et bon, on aime ou on n'aime pas, mais bon, nous, il se fait qu'on utilise cette langue. On en fait ce qu'on veut. C'est pas pour ça qu'on fait allégeance à la France nécessairement, mais c'est une langue que je pratique. Je vais pas parler pour mon frère Tahar, mais voilà, je la pratique et...
Moi, ça me gêne beaucoup, le mot francophonie, parce que il n'y a pas d'anglophonie, par exemple. Il n'y a pas de politique anglophone, les gens parlent anglais un peu partout, et énormément de gens parlent français en dehors de la France. Mais
vous pensez que c'est un mot qui instaure une hiérarchie ?
Un jour, j'ai dit à... j'étais dans un colloque, souvent j'étais une rencontre littéraire avec Rob Grier, et je lui ai dit, toi, écrivain francophone, il me dit, mais ça ne va pas, je ne suis pas métèque, moi. Et il rigolait, mais il avait raison. Parce qu'on dit francophone, quand on dit francophone, ça veut dire que ce n'est pas un français de souche. Hein. Ce n'est pas Michel Tournier, ce n'est pas Luc Lesio, ce n'est pas Modiano. Et ça me gêne beaucoup. Et d'autant plus que la francophonie, c'est un petit peu... C'est devenu un mot politique. La preuve, c'est quand, une ou deux fois par an, je ne sais pas quoi, le chef de l'État français réunit les chefs d'État francophones, un grand gala et tout ça. Bon, c'est politique.
C'est ce que disait Jean Bofane, c'est du soft power.
Ouais, mais je n'utilise pas le mot soft power. Je n'utilise que des mots français, moi.
Que des mots francophones.
Français, absolument. Mais j'adore la langue française, je l'aime. Elle m'a beaucoup nourri, j'ai vraiment été nourri par elle aussi. Et elle m'a sauvé parce que c'est dans l'écriture que je me suis sauvé et que j'ai sauvé ma peau plusieurs fois.
Alors justement, parlons de votre roman Les Amants de Casablanca. Vous racontez une histoire de séparation au Maroc, la séparation entre Lamia et Nabil, ce qui est déjà subversif. Et subversion supplémentaire, l'amour perdure malgré cette séparation. Ils étaient mariés, ils deviennent amants en dépit des conventions. Qu'est-ce qui vous a inspiré cette histoire ?
Oh, c'est la vie quotidienne. J'ai passé plusieurs mois dans cette ville extraordinaire, la ville du fric et du pouvoir, Casablanca. Et j'ai vécu un peu dans ces milieux, et j'ai vu un peu des choses, et j'ai assisté à une sorte de soulèvement féministe, à partir de la trentaine, entre 30 et 40 ans, des femmes qui ont fait des mariages qu'elles ont cru heureux, et qui s'étaient rendues compte après que c'était une mauvaise... une erreur, quoi. Et j'ai suivi ces femmes, j'ai parlé avec elles, et l'histoire de Lamia et Nabil, c'est un peu ça. Ils se sont connus, eux, en France. Sauf que ils se sont tant aimés, le deuxième tome, la suite des Amants de Casablanca, eh bien, c'est une autre histoire. Enfin, c'est le même amour, et j'essaie un peu de démontrer, à travers ce livre, toujours avec les contradictions, toujours avec les complications, que grâce à l'amour, on peut peut-être être plus fort que la maladie.
Vous venez de parler de Casablanca, vous aussi, Jean Bofane. Vous avez écrit sur cette ville, oui. Dans votre roman La Belle de Casa. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette ville, Jean Bofane ?
Mais voilà, moi je voulais... En arrivant à Casablanca, d'habitude j'écris sur le Congo. Hein, mais voilà, mais là, il se fait que... J'habite en Belgique, hein, je viens de Bruxelles, c'est pour ça que j'ai un gros pull là, parce que là-bas il fait encore froid. Et j'habite à Bruxelles, et la première communauté africaine en Belgique, c'est la communauté marocaine. Donc je connais bien mon peuple, quelque part. Et je voulais aussi un peu aborder le sujet que t'arrêtes en train de traiter, c'était justement voir les relations hommes et femmes. Moi, je parle plutôt de concupiscence masculine dans mon livre. Et il y a beaucoup de paradoxes, il y a beaucoup de choses qui sont énoncées. Et moi, tout ce que je voulais faire en écrivant ce livre, c'était aller sur place à Casa et voir comment les hommes et les femmes vivaient. Il parle d'inversion des valeurs qu'on croit qui sont ancrées, alors qu'en fait, les gens aujourd'hui essayent de sortir de certains carcans, parce que la femme surtout.
Et Casablanca, c'est une ville quand même particulière pour ça.
Très particulière.
Très particulière.
Et la société civile marocaine est entre les mains des femmes. Il y a des hommes bien, mais les femmes bien sont plus nombreuses. Et les femmes au Maroc, elles se battent pour leur liberté. Elles se battent aussi pour leur identité et que le mariage ne devient pas une espèce de prison où on accepte tout. C'est pour ça que dans Les Amants de Casablanca, quelqu'un m'a fait remarquer quand je faisais les lectures là-bas à Casa, elle m'a dit « Ah, c'est la première fois qu'on voit un roman marocain avec le mot « amant » dans le titre ». Parce que pour eux, bon, l'amant, ça doit être caché, ça doit être... On fait ça, mais en cachette, hein, il ne faut pas le dire. Hein.
Et officiellement, ça n'existe pas, d'ailleurs.
Ça n'existe pas, non. Non, et puis alors, c'est très marrant, d'ailleurs, je le raconte dans le... Ils se sentent tant aimés, quand la femme trompe son mari, on dit « ses pieds ont glissé ».
Oui, l'expression est très très drôle dans le livre.
Ses pieds ont glissé. Ses pieds ont glissé, et parfois ça devient dramatique parce que tout de suite il y a un jugement moral qui vient juste après. Mais j'ai connu des femmes très fortes, formidables qui ont eu le courage de tout, de vivre, d'être vivantes et de vivre, et d'aller jusqu'au bout de leur liberté, ce qui est exceptionnel et très rare, c'est à ces femmes-là que je rends hommage, et c'est pour elles que j'ai écrit ces deux histoires d'amour, enfin, c'est une même histoire d'amour sur deux livres.
Sur deux livres, on continue à en parler dans quelques instants. Jean Bofan, Tahar Bedjelloun, vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques petites minutes pour parler des rapports de domination politique et intime qui irriguent vos deux romans, mais d'abord on écoute Damso et Kalash Criminel, Limbisa et Gal.
J'aime l'argent, le respect, surtout les jolies dames. Les jambes écartées comme les bras de Bellingham. 12 millions de Français qui votent RN, je trouve ça délicat. Ma nationalité m'accuse d'être polygame. Faut de l'argent, mais plus de sagesse. Le prix de ma voiture, ça me gêne. Je vais pas me plaindre, Dieu merci, God bless. Faut plus de frères sûrs comme Dems.
J'aime l'argent, le respect, la RDC, Jules Patron, le réfet. Si on regarde les faits, je me souviens de ta voix. Pas quoi tu ressembles, car à chaque fois qu'on se voit, t'as la tête baissée. T'as enchaîné les flops, ta carrière est dans l'oubli, tu flippes. Ces rappeurs manquent de technique, pas d'inspiration, ne font que des feats. J'tous ces salopes comme si j'étais chez Sixte. Sainte parole, j'esquive trois fois le 6. Suis ton mariage, j'fais croire compter le bif. Et mes ventes de disques, des néons rouges et des bleus foncés. Notre police poursuivant que les traîtres. Des millions d'impôts anticipés. Là les racistes dont je finance les retraites. J'ai le flow, j'ai le truc. J'ai ma gauche, j'ai des hauts. Viens on va dans la cage. Pas pour marquer des hauts.
Vous écoutez etc. et nous sommes toujours en compagnie des romanciers Jean Bofan et Tahar Bedjelloun. Jean Bofan, dans votre roman, on suit un écrivain médiocre qui prétend se rendre en Haïti pour écrire son prochain livre alors qu'il fuit des accusations de viol. Qu'est-ce qu'on ressent quand on se met dans la peau d'un odieux personnage ?
C'est pas évident du tout. Mais en fait, c'est pas évident, disons, personnellement, mais il suffit alors de regarder un peu l'actualité, regarder un peu autour de nous, et voir voilà, des gens qui sont en butte à des accusations. Et bon, ça, c'est le cas de Faust. Il essaie de...
Vous avez bien choisi le prénom, Benouk.
Il est très pompeux, il a un nom prestigieux quand même. Mais le type est un peu, comme vous dites, un écrivain médiocre, mais qui se cherche à travers d'autres choses.
Comment vous avez fait pour composer ce personnage ?
Quand je vous dis, il y a beaucoup d'exemples. Et puis bon.
Vous en connaissez ?
Ouais, j'en connais, ceux que tout le monde connaît. Et puis nous-mêmes, nous devons quand même nous surveiller de temps en temps. Quand je parle de la belle de Casa, je parle de concupiscence masculine. C'est-à-dire que ça m'a permis, à travers cet ouvrage, de me regarder aussi moi-même, quand même. Hein, parce que bon, ça sert aussi parfois à ça.
Mais c'est très drôle. Il est grotesque, le bonhomme.
Oui,
il est grotesque.
Ben
oui.
Grotesque avec ce,
mais ils sont grotesques, je trouve. C'est des gens qui se prennent pour des...
Non, mais c'est combien qu'est-ce que tu lui donnes à manger ?
Mais c'est vrai qu'au début, on sait pas trop. Jean Bofan, vous écrivez au début du texte, et non sans ironie, avec cette vague de délation qui déferlait sur le monde depuis le mouvement MeToo, qui interprétait mal le moindre geste, personne n'était plus à l'abri, et l'écrivain avait dû quitter Paris en catastrophe.
Oui.
Et plus loin, vous écrivez que Faust, votre personnage principal, donc, faisait partie de cette engeance-là, l'homme animal, ainsi peut-on le nommer, est comme un chien méchant à qui il ne faut pas montrer sa timidité, sinon il mord. Pourquoi certains hommes deviennent des chiens qui mordent ?
Mais justement, quand vous me posez la question, comment est-ce que j'ai fait pour composer mon personnage ? J'ai réfléchi, j'ai schématisé. Donc je parle de l'homme animal, de la femme animale, les hommes et les femmes du cinquième jour. C'est-à-dire Dieu a créé la terre en six jours. Le septième jour, il s'est reposé. Le cinquième jour, il a créé les animaux. Mais il se dit, demain, je n'aurai pas le temps de créer tous les hommes dont j'en ai créé quelques-uns aujourd'hui. Et c'est les hommes animaux et les femmes animales. Et voilà, c'est les femmes et les hommes du cinquième jour.
Mais tous les hommes ont une part d'animalité, non ?
Il y en a plus que d'autres, franchement.
La pire des animalités, c'est pas celle que tu décris dans ton livre. La pire, c'est celle qui ne se voit pas, qui est intérieure, qui est dans la pensée, qui est dans l'absence de morale. Voilà. Là, le type, il est content d'exhiber sa sexualité et tout. Non, c'est la même chose.
Quand on parle de liberté, justement, on parle de liberté dans ton livre, de liberté de l'homme et de la femme, dans son, malgré les pressions sociales, etc. Mais la liberté, justement, le cas de Faust, c'est la liberté ou la libération. Quelle est la libération pour chacun ? Ça représente quoi pour chacun ? Quel est le prix ? Est-ce qu'on a envie de se libérer, oui ou non ? Et quel est le prix on est prêt à payer pour cette libération ? Pour Faust, comme tu dis, il aime ce qu'il fait. Il est très fier de ce qu'il fait. Il ne veut pas du tout s'en libérer. D'autant plus, c'est...
Mais il se libère quand même.
Contre son gré, quelque part.
Contre son gré.
Contre son gré, mais de lui-même. Moi, je n'ai jamais vu ce genre de personnage qui s'auto-immune, qui s'auto-pardonne quelque part, qui change. Tant qu'on ne voit pas ce qu'on est exactement, on ne change
pas. C'est ça, tant qu'on est,
oui,
on est pas conscient.
Et puis c'est du plaisir sexuel, ce n'est pas évident. Le plaisir sexuel, c'est quand même un plaisir assez suprême. Donc là, lui, il est pris avec ça, mais on voit qu'il n'a pas vraiment envie. Une fois il veut, une fois il ne veut pas se libérer. Et voilà.
Tara Benjelloun, c'est rapports de domination, et vous travaillez aussi dans Ils se sont tant aimés, donc la suite des Amants de Casablanca. Il y a tout un passage sur les cafés qui étaient auparavant réservés aux hommes. Et vous écrivez, désormais, mais c'est récent, les femmes osent s'installer dans des cafés sans craindre d'être considérées comme des prostituées.
C'est récent, surtout à Casablanca, un peu à Tanger, un peu dans les grandes villes. Mais si elle arrive avec son frère ou son copain ou en famille, il n'y a pas de problème. Mais une jeune fille toute seule qui va prendre un café, à la terrasse, fumer une clope, ça c'est très récent et c'est nouveau. Mais les choses évoluent lentement.
Vous savez, par exemple, je ne sais pas, chez moi je suis comme vous, je viens d'Afrique.
J'allais vous poser la question, Jean Bofan, est-ce que ce n'est pas le point commun de toutes les sociétés africaines ?
J'ai l'impression, mais moi j'ai fini par le fait d'avoir vécu ici ou d'avoir grandi une partie de ma jeunesse ici, le fait d'être congolais. Tu verras jamais dans un couple de congolais se faire des câlins à l'extérieur.
Pas au Maroc non plus.
Voilà. Mais c'est d'autres codes. Mais mais pour moi quelque part c'est une autre forme de sensualité. Parce que toute la journée vous allez rester à 10 cm l'un de l'autre, vous n'allez pas vous toucher, mais l'amour est là et la tension sexuelle est là malgré tout.
C'est vrai qu'on pourrait repenser aussi.
Je crois,
un temps de séduction.
Et pourtant, pour parler du monde arabe, la littérature amoureuse,
elle est très présente.
Et les plus grands poètes arabes ont chanté l'amour, le sexe.
Le sexe.
C'est présent dans la culture, mais c'est vécu clandestinement ou alors un peu avec un petit peu de mise en scène. On ne se montre pas. D'ailleurs, moi, je n'avais pas l'intention d'écrire la suite des Amants de Casablanca. Et juste quand le regretté, très regretté Bernard Pivot...
C'est lui qui vous a demandé.
Oui, il m'a lu. Il m'a appelé gentiment, il m'a dit, j'ai beaucoup aimé ton roman, maintenant j'attends la suite. J'ai dit, tu es sûr de ça ? Il m'a dit, absolument, il faut que tu nous racontes ce qui se passe après. Alors je me suis mis à écrire...
Et l'après est intéressant, parce que c'est encore une forme de subversion.
Une forme d'amour, parce que la question qui va se poser, bon, ils vont se retrouver, ils vont se remarier...
Racontez pas tout, hein.
Non. Mais c'est un lien qui n'est pas mort, c'est un lien qui n'est pas définitivement éteint. Parce qu'il y a d'autres choses, d'autres éléments extérieurs qui le font vivre jusqu'au bout.
Alors Jean Beaufan, dans l'émission, on reçoit des libraires chaque semaine. Cette semaine, c'est Sandrine Babu de la librairie L'Instant dans le 15e arrondissement de Paris qui vous a lu. Bonjour Sandrine.
Bonjour.
Vous êtes en studio avec nous et vous vouliez vous adresser directement à Jean Beaufan.
Donc je voudrais m'adresser à vous, puis m'adresser à tous les auditeurs pour dire que ce livre, il faut le lire, que je l'ai adoré. Nation cannibale, c'est un magnifique plaidoyer pour la paix, contre la guerre, contre ces nations cannibales qui tuent leur propre population, contre l'exploitation des métaux stratégiques par les grandes puissances, mais aussi parce que c'est un livre truculent, féroce, poétique, plein d'humour et d'ironie. C'est un tourbillon de péripéties, d'aventures, hein. C'est vraiment un grand plaisir de lecture. Alors pour moi, qui ne suis pas allée ni en Haïti ni au Congo, j'ai adoré ce voyage entre ces deux pays, entrer dans leur culture. Je ne savais pas que ces deux pays ont un lien très fort parce qu'une grande partie de la population d'Haïti est composée de descendants d'esclaves venus du Congo et qui ont lutté pour l'indépendance d'Haïti. Et j'ai découvert aussi l'œuvre artistique incroyable de Freddy Tsimba. D'ailleurs, j'ai réalisé que j'avais déjà vu une de ses sculptures au Palais de Chaillot, la porteuse de balles qui est composée de milliers de douilles, sans savoir que c'était lui. Donc merci aussi pour ça. Vos personnages sont tous plus vrais que nature, ils sont parfois un peu fantasmagoriques quand même, il se passe des choses très étranges dans votre livre. Le climat est manipulé, la mort est personnifiée en une femme très puissante et très imbue d'elle-même. On a un militaire qui a vécu 140 ans et connu toutes les guerres, des envoûtements, des zombies. On a aussi le fantôme de ses mains coupées pendant la colonisation belge, cet épisode atroce dont on a tous entendu parler, c'est très fort et bouleversant. Et enfin, il faut le lire parce qu'on y croit des écrivains, d'autres écrivains qu'on aime, hein, et que je crois que vous aimez aussi, et vous taquinez un petit peu.
Absolument.
Comme Mabankou, La Ferrière, Mackenzie Hursel. Et votre livre aussi, il donne très envie de lire de la poésie,
oui.
Notamment celle de Lionel Trouillot. Mm-hmm. Et donc la poésie joue un rôle important. Mais je laisse aux auditeurs la chance de découvrir cette partie-là.
Et Sandrine, vous aviez une question à ce sujet.
Oui, pourquoi vous avez utilisé des personnes réelles dans votre livre, des écrivains, des artistes, et est-ce que vous leur avez demandé leur accord, hein?
Oui, je ne pourrais pas écrire comme ça, je demande. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à écrire, et puis il y avait des personnages comme Freddy Tsimba, et puis les quelques écrivains qui commencent le début de l'histoire. Et puis j'ai un ami, enfin c'est des amis, hein, c'est tous des amis.
Il y a Mohamed Bougarsar aussi.
Oui. Mohamed Bougarsar, La Ferrière, et puis il y avait Lionel Trouillot. Et j'appelle mon éditrice, elle me dit « Oui, mais est-ce que tu crois vraiment, est-ce que tu peux mettre leur nom ?» Et tout ça, je dis « Écoute, je l'appelle. » Je dis « Mais ce que j'ai vu, ce que j'ai décrit de Trouillot, c'est un combat au bâton, un art martial haïtien. Mais je l'ai vu, ce combat. J'ai assisté à un combat entre deux poètes sur une plage de Haïti. Donc j'ai écrit à Lionel, je dis « Écoute, Lionel, j'ai vu cette histoire, donc pourquoi je ne mettrais pas ton nom ?» Et il m'a dit « Non, tant que c'est par amour. » Et puis il y a aussi, c'est que nous écrivons, on s'évertue tous à écrire des personnages, à trouver des femmes extraordinaires, des hommes extraordinaires, les faire vivre des choses. Mais moi, les connaissant intimement, eux-mêmes, ce sont des personnages, dehors de l'homme qui écrit.
Alors, quand tu utilises le mot nègre, tu mets un petit point en bas. Dany Laferrière m'a autorisé à le faire.
Oui, non, mais il a écrit oui. Tout le monde a le droit, tout le monde a le droit, mais à ses risques et périls. Mais je voulais les prendre et aussi qu'eux jouent un rôle. Et aussi pour dire aux lecteurs que tous ces gars-là, la majorité, c'est des sacrés personnages quand même.
Alors Jean Beaufan, votre livre s'ouvre avec une note de l'auteur très intéressante qui répond à la question de Sandrine Babu précisément. Est-ce que vous accepteriez de nous la lire ?
Dans Nation cannibale évoluent des êtres issus de notre réalité visible, notamment des écrivains, écrivaines, un sculpteur, des poétesses, des poètes que nous connaissons ou pas, à qui j'ai fait franchir la frontière délimitant les mondes. Étant comme tous concernés par ce phénomène, je n'ai pas craint en tant qu'auteur de conserver leur nom et prénom véritable, car ils sont ici, présents dans leur propre rôle ou même parfois en miroir, tels les personnages qu'ils s'évertuent à créer.
Alors ça c'est passionnant, ils deviennent des personnages. Dès lors qu'on écrit, est-ce qu'il n'y a plus de réalité ?
Quelle est la frontière entre la réalité et la fiction ? Et là, je fais appel à Papa Legba. Papa Legba, c'est l'effigie qui se trouve sur... c'est
le dieu, une divinité.
C'est une divinité haïtienne. Sur le pommeau de l'épée de Dany Laferrière à l'Académie, par exemple, c'est Papa Legba. C'est un personnage avec un sexe énorme qui brandit comme ça. Et en fait, c'est lui qui permet aux êtres humains de passer du monde invisible, du monde visible aux mondes invisibles. Qui nous permet, nous, de passer du monde visible au monde invisible pour rechercher justement cette dame de Casablanca et la mettre en scène. C'est pas dans ce monde-ci que vous allez la trouver, tard. T'es obligé de franchir une frontière. T'es obligé de passer de l'autre côté, et c'est ça, Papa Lé, nous permet ça. Il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de frontière. Et la réalité, pourquoi est-ce que les personnages sont réels? Parce que la réalité, j'ai vécu une vie très tumultueuse.
J'allais vous poser la question, chez vous, très tôt, l'écriture a eu à voir avec la survie.
Oui, tout de suite. Et justement, et la réalité dépasse la fiction, pour moi. J'aurais beau écrire des histoires extraordinaires.
Absolument, mais bien sûr, surtout dans nos pays.
Surtout chez nous.
Surtout.
Chez nous, il y a des histoires qui sont difficiles à écrire, parce qu'elles sont carrément incroyables.
Oh, tout à fait. Chez nous, et puis en Amérique latine, on est tous, enfin tous les deux, très influencés par ce que nous avons lu des écrivains d'Amérique latine.
Voilà.
C'est un monde qui nous parle très bien.
Voilà. Et c'est Nation Cannibale, c'est ça, on passe de la fantasmagorie, il y a la mort qui est là, qui fait moins peur, parce que la mort, enfin moi la mienne, je crois qu'elle fait moins peur que la mort. Moi quand je vois cette dame avec sa cape noire et sa tête de mort, j'ai peur tout de suite.
Mais c'est pas la même.
Alors que la mort, pour nous aussi, comme je dirais, voilà, pour nous, c'est naturel. C'est quelque chose de naturel.
Ah, Tara Benjelloun, j'aimerais vous entendre là-dessus.
Non, la mort n'est rien. Ce qu'il y a avant, c'est ça qui fait peur. C'est comment on y arrive. Parce que finalement, quand elle est là, on n'est plus. Et c'est la maladie. Qui est la
c'est
mort.
La maladie.
C'est pas la mort elle-même.
Moi, j'ai peut-être voulu un peu l'amadouer avant que. Parce que les années passent. Hein.
C'est bien, on en rit.
Non, parce que dans Ils se sont aimés, il y a l'ombre de la mort qui est dans la perspective. Ce qui est tout à fait.
Vous commencez avec ça, d'ailleurs.
Oui, ça, c'est normal. Elle enterre son deuxième mari.
Oui.
Pour laisser la place à un nouvel amour.
Tara Benjelloun, Jean Bofane, dans un instant on entrera dans vos ateliers d'écriture à tous les deux et on parlera d'une figure qui traverse vos deux romans, la figure de l'ogre en littérature.
Tu veux changer qui? Tu veux changer moi? Ou tu veux changer toi? Avec une bonne histoire, change-toi et appelle-moi. Oh oui, moi je suis honnête, tu joues bien la trompette. Mais oui, moi je suis honnête, mais tu joues bien la trompette. Quand tu fais du cinéma, quand y a pas de bon savon dans ma salle de bain. Mais oui, moi je suis honnête, mais tu joues bien la trompette. La trompette. vient la trompette.
Écoutez, etc. C'était Arnaud Honnête et nous sommes toujours en compagnie des romanciers Tahar Benjelloun et Jean Beaufane. C'est l'heure de l'atelier d'écriture.
France Inter, Radio-Canada, RTS la première, RTBF la première, etc. Lilia Hassen.
Jean Beaufane, votre livre s'appelle Nation cannibale. Est-ce que les écrivains sont des cannibales ?
Quelque part, oui. Ils sont obligés, quelque part, de s'accaparer des destins, de vie, de... Et là, voilà, et ils en font ce qu'ils veulent, en fait. Et c'est ce qui les nourrit aussi. Le fait de créer ces mondes, c'est ce qui nous fait vivre. Oui, on peut dire qu'on est cannibale, mais... Oui, on n'y peut rien.
Donc vous êtes un petit peu Faust aussi.
Je suis Faust un peu... Quoique ce gars-là me dépasse quand même.
Vous avez plus de talent. Tahar Benjelloun, est-ce que les écrivains sont des cannibales ?
J'ai envie de dire des cannibaux, c'est joli.
Des cannibaux.
Non, moi je pense, je me considère comme un cambrioleur du réel. Cambrioleur parce que je trouve tout dans la réalité. Tout, et on ne trouve pas assez, parce que le travail de l'écrivain, c'est d'observer, c'est d'être témoin, de ramasser, d'être un buvard. On est en train tout le temps de voler des choses, et après on en fait de la fiction et un roman. Et la fiction qu'on fait est forcément plus faible que la réalité.
Il faut penser aux autres quand on écrit.
Ah oui, oui, absolument.
Est-ce qu'on peut être cannibale sans penser aux conséquences ?
Il n'y a pas de problème pour les conséquences, il faut assumer dès le début. Hein. Même dans le roman, j'explique aussi que voilà, il y a des choses qu'il faut assumer.
Ah,
voilà,
oui.
Ce militaire, il choisit son destin en devenant militaire, donc en faisant
la
contrainte, oui. Oui, en soumettant son propre peuple, en massacrant son propre peuple, c'est le prix que lui, il est prêt à payer pour ça. Et donc, il assume.
C'est quoi le prix de l'écrivain?
C'est beaucoup de
sueur.
Beaucoup de sueur, mais beaucoup de... Comme je dis dans Nation Cannibale toujours, le roman, s'il peut jouer sur la psyché des lecteurs, il joue d'abord sur la psyché de l'écrivain, de celui qui produit le texte. Les textes sont pas toujours anodins. D'ailleurs, si j'ai écrit La Belle de Gaza, c'est parce que je voulais quitter le Congo. Le précédent roman sur le Congo m'avait complètement bouleversé, m'avait complètement...
Les livres produisent quand même des
fêtures. J'étais très très mal, mes personnages m'ont hanté pendant des années, longtemps après que j'ai fini le roman.
Donc, et vous êtes dans quel état après avoir fini Nation Cannibale ?
Ça va, non, franchement ça va. Le Congo ENC, c'était très mal, ça a bousillé ma vie presque, je dirais.
À ce point ?
Ouais, parce que c'était trop fort, c'était trop. Et c'est pour ça que j'étais en réfugié au Maroc, c'est pour ça que j'ai écrit La Belle.
Tu as bien fait.
j'ai écrit La Belle de Gaza. C'est pas anodin.
Non, moi j'écris en pensant beaucoup au lecteur. Ça c'est un conseil que m'avait donné Jean Genet il y a très longtemps, parce que à l'époque je le fréquentais, il m'avait demandé de lire le livre que j'étais en train d'écrire, et puis il m'a fait des remarques, il m'a dit bon bah là tu m'enlèves ça parce que le lecteur ne va pas te suivre.
C'est drôle parce qu'on dit souvent, on conseille souvent aux écrivains l'inverse, de ne pas penser au lecteur, mais vous dites...
Non, il m'a dit voilà, le lecteur c'est quelqu'un à qui te donne sa main, tu la prends, et si tu l'embêtes, il la retire. Donc, en écrivant, il faut penser à ceux qui vont te lire, les respecter et leur donner le maximum de ce que tu peux leur donner et le plus beau que tu puisses leur donner. C'est-à-dire que finalement, c'est un grand respect pour le lecteur. C'est pas quelqu'un qui est physiquement déterminé, mais un lectorat, qu'il soit féminin ou masculin, arabe ou africain ou occidental, peu importe, c'est un lecteur, pas abstrait, mais qui est concret. Et il faut le respecter, et je pense beaucoup à lui. Quand j'écris, je dis attention, il faut que ce soit clair, attention, il faut que ça soit juste. Je vérifie toujours les choses.
Alors, non, mais, oui, allez-y.
J'ai même une idée que j'appelle, un concept que j'appelle le lecteur fantôme. Hein, j'ai toujours le lecteur, en fait, quand j'écris, j'ai toujours le lecteur fantôme qui est à côté de moi. Il est assis à ma table. constamment, il est là, il me corrige.
Ça, c'est plus loin que moi.
comment on sait si c'est un bon lecteur, le lecteur fantôme ?
Non, lui en fait, le problème c'est qu'il met les doigts, il est pire que mon éditrice, il met le doigt sur des choses quand je cherche un mot par exemple, parce que parfois vous cherchez un mot, vous pouvez le chercher pendant 6 mois, alors que le mot est bête, ou bien alors, voilà, quand... Et puis il y a aussi cette joute parfois avec le lecteur, on écrit parfois pas tout, parce que vous savez que le lecteur va terminer la réflexion, et c'est ce lecteur fantôme à côté de moi qui m'aide à ça, mais il est là, mais il est plus harceleur que harceleur cérébral. Si
que votre éditrice.
Oui, beaucoup.
La liberté des auteurs, elle est essentielle. J'aimerais qu'on dise un mot de Boualem Sansal, 75 ans, qui est malade et qui est détenu en Algérie depuis plus de 3 mois. De rappeler simplement que la place d'un écrivain n'est pas en prison. Tahar Ben Jelloun, vous avez été détenu, vous aussi, au Maroc, quand vous aviez 19 ans. Pour quelle raison et est-ce que vous aviez envie de dire un mot ?
Non, moi, ce qui m'était arrivé, c'était une punition pour... avoir manifesté. J'ai resté 19 mois dans une prison militaire où on nous a maltraités. Là, c'est autre chose. Là, bon, ça est dans une. Il a 80 ans. Il a 80 ans. Il est malade et il est dans une prison où il n'a rien à faire là-bas. Il faut absolument qu'il soit libéré. Mais nous avons malheureusement affaire à un régime totalitaire qui a été fabriqué et conseillé par la SAVAK. Il y a longtemps, les Iraniens et puis les Allemands de l'Est ont formé les services de renseignement algériens. Et maintenant, Boualem Sansal...
Vous avez des nouvelles ?
Non, aucune. On a fait une soirée, l'hommage, on lui a rendu hommage. J'ai participé à un livre qui sort ces jours-ci, bon bref. Mais tout cela n'a pas du tout fait plier le régime algérien, qui est une dictature stupide et qui en veut aux écrivains. Et n'aime pas les écrivains, c'est ça le problème de ce régime.
Et Jean Boffin, vous vouliez réagir ?
Boualem, c'est un ami. Donc cette histoire me touche énormément, et du fait aussi que je suis congolais. Ça dit, on vit dans des territoires, parfois, pour toute chose n'est pas bonne à dire. C'est toujours très, très compliqué. Il y a des bouquins que vous sortez, bah, vous savez qu'il ne faut pas mettre les pieds au pays pendant X temps, quoi. Moi, j'ai déjà eu ça avec des Congo INC, où j'ai fait quand même quelques temps avant d'en pouvoir rentrer. Avec le prochain, j'espère.
Vous avez déjà été embêté ?
Non, parce que j'ai évité d'aller là-bas.
Il était imprudent, parce que vous savez, tôt ou tard, ils allaient le boucler un jour.
Ouais, voilà.
En tout cas, votre livre porte bien son nom, Nation Cannibale. Votre roman évoque la figure de l'ogre à de nombreuses reprises, à l'échelle des nations et à l'échelle individuelle. C'est quoi un ogre, Jean Boffin, et qu'est-ce qui vous fascine tant dans cette figure de prédateur ?
C'est-à-dire que l'ogre a fini par submerger ma vie, comme la vie de beaucoup de mes concitoyens. D'abord, je parle de l'ogre au temps colonial. Je parle de la colonisation qui ne pouvait être accomplie que par des ogres.
Vous parlez de l'esclavage aussi ?
De l'esclavage. Et puis aujourd'hui, il y a les nations cannibales. Quand je parle de nations cannibales, c'est des nations qui ingurgitent leur propre peuple, comme le Congo, comme Haïti. Mais aussi contre, par exemple, ceux qui font comme les États-Unis, qui envoient des GI à gauche, à droite. Et ils sacrifient leur jeunesse quelque part. Après, t'as des blessés, t'as des gens qui sont dans le stress post-traumatique. Aujourd'hui, il y a l'Ukraine qui, quoi qu'on dise,
la Russie se comporte en nation cannibale.
Oui, mais la nation aussi. La nation aussi mange ses propres citoyens. Parce qu'on a quand même entendu Biden dire, voilà, on va se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Pour dire ça, faut être un ogre. Et ce mec l'a dit pour un peuple qui n'est pas le sien. Et tout le monde a regardé ce mec dire ça en disant bravo. Moi, je suis... Voilà. Et c'est ces choses-là qui font que on nous... L'ogre est bien là. L'ogre, voilà, il est dans les contes de fées aussi. Il est dans les contes de fées. On a les gens qui ont découpé Lumumba en morceaux. C'est
là
ogres.
Où on voit que les contes de fées parlent du réel.
Oui, ils parlent de réel.
Tahar Ben Jelloun, dans votre livre, on trouve aussi des ogres, et notamment un que vous qualifiez vraiment d'ogre. Le beau-père d'une jeune femme que Nabil, médecin, reçoit en consultation. Elle a été violée par son beau-père. Et j'aimerais que vous lisiez l'extrait qui suit ce passage.
Après un instant de sidération, je l'ai auscultée. Elle avait perdu sa virginité Et il est reparti en larmes, et moi, je n'ai pas su comment l'apaiser et lui rendre sa dignité de jeune fille. Elle était brisée par un salaud. On ne parle pas de ces choses-là, ni dans la presse, ni ailleurs. Encore faudrait-il que les victimes puissent briser la glace et témoigner, comme cette adolescente a eu le courage de le faire. Dans ce pays, la honte et la peur du « qu'en dira-t-on » laissent toute liberté aux violeurs et aux pédocriminels. Et pour nous autres Marocains, les pédophiles, ce sont des étrangers. Nous, nous voilons la face.
La phrase, c'est un passage qui est très fort. Pour nous autres Marocains, les pédophiles, ce sont des étrangers.
Pendant longtemps, j'ai entendu ça, parce qu'on a arrêté quelques pédocriminels, jusqu'au jour où ils ont arrêté quand même un député qui est avec un petit garçon. Et ça fait un grand scandale. Mais parce que j'ai dit, mais enfin, nous sommes une société normale, c'est-à-dire avec des monstres qui vivent chez nous. Et nous avons des incestes, nous avons la pédocriminalité, nous avons tout ça. Des viols, bien sûr, et tout. Mais maintenant, on commence à en parler. Et il y a des associations, encore une fois, entre les mains des femmes, qui dénoncent et qui luttent pour que tout cela soit su et que la justice puisse être faite.
Tahar Benjelloun, puisqu'on parle de langue et de liberté, j'aimerais qu'on parte au Québec, où notre libraire Katia Courteau de la librairie Le Port de Tête à Montréal vous a lu. Bonjour Katia.
Bonjour, bonjour Lilia.
je vous laisse la parole, vous vouliez vous adresser directement à Tahar Benjelloun.
Oui, bonjour Tahar Benjelloun.
Bonjour Katia.
Quel bonheur, bonjour. Quel bonheur d'abord d'être entrée dans votre œuvre avec les amants de Casablanca et de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui. Je comprends qu'on doit aussi remercier Bernard Pivot, ce grand monsieur. Je lui envoie mes remerciements par-delà l'univers parce que vous avez écouté son souhait et vous avez bien fait. J'ai adoré vos amants, tous vos amants, et ce que vous abordez grâce à eux. Cette œuvre est très riche. Je trouve qu'elle éclore encore plus les questions de société. Et évidemment, l'histoire d'amour entre Lamia et Nabil est évidemment touchante. On s'attache à eux. J'ai aimé ce qu'ils montrent de la complexité du couple, de l'amour et du désir. Mais il y a un autre personnage très complexe qui évolue aussi et qui est au cœur de votre diptyque. Évidemment, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est Casablanca elle-même, la société de Casablanca, son peuple et ses contradictions, évoluant entre tradition et modernité. Et je trouve que vous arrivez très bien à montrer les tensions, les défis des nouvelles générations.
Et qu'est-ce qui vous a tant plu dans ce roman, Katia Courteau?
Eh bien, Lilia, en tant que femme, j'ai été très sensible aux personnages féminins, émancipés, hein, qui s'émancipent totalement ou qui essaient, et ces femmes résilientes. Je pense au personnage de Saïda, entre autres, qui arrive à se réinventer. Du côté des personnages masculins, Nabil est très intéressant. Il est complexe et nuancé. Par exemple, son obsession face au conflit israélo-palestinien. Pardon, m'a beaucoup, beaucoup interpellée. On peut être qu'ébranlé. Pour tout vous dire, Tahar Benjelloun, j'aime voyager, découvrir et comprendre un peu mieux le monde grâce à la littérature. Je vous remercie pour ce très beau voyage. Aussi, j'avais une question. La littérature et le cinéma traversent cette œuvre. On vous connaît comme un amoureux de la littérature, évidemment, mais êtes-vous, comme votre personnage Nabil, un grand cinéphile? Et iriez-vous jusqu'à dire comme lui? Il m'arrive souvent de penser en images ou de me référer à une scène de film pour m'expliquer.
Oui, merci Katia, tout à fait. Moi, je suis un cinéphile et ce sont les grands cinéastes qui m'ont appris à écrire. Parce que je vois des films depuis l'âge de 14 ans et je pense que tout en lisant bien sûr les classiques, je regardais un film par jour et j'ai appris à raconter une histoire en racontant en regardant les films de Fritz Lang, Jean Renoir, Howard Hawks, Hitchcock, etc. Donc ce sont des raconteurs d'histoire et j'ai appris comment ils faisaient pour pouvoir moi aussi écrire.
Merci beaucoup Katia Courteau. Oui. Tahar Benjelloun, est-ce que certains films vous ont inspiré spécifiquement dans l'écriture de ce roman « Ils se sont tant aimés »
J'avais commencé dans Les Amants de Casablanca par le film de Bergman, Scène de vie conjugale.
Un magnifique film.
Magnifique, mais sauf que chez moi, c'est pas l'homme qui s'en va, c'est la femme qui part, qui quitte le mari. Et ça, c'est révolutionnaire. Parce qu'elle le quitte, elle lui dit cette phrase terrible, quand elle sort de la salle de bain en larmes, « Il m'a quitté et je te quitte ».
Vous, Jean Boffin, est-ce que le cinéma vous inspire ou d'autres formes d'art ?
Évidemment. Dans le cinéma, ça, je crois que ça jalonne quand même pas mal nos vies. Voilà, et on a envie d'aller voir les films. Et c'est vrai, c'est le début de quelque chose quand même. Parfois, ça peut être la genèse d'histoires terribles, hein, des films. Voilà. D'ailleurs, parfois, il y a le film et certains grands films et la littérature, parfois on a un peu difficile.
Non, ils ont des rapports très difficiles parce que c'est pas la même chose. Les films, c'est des images, les livres, c'est des mots.
Voilà.
Et on a fait beaucoup d'erreurs en voulant adapter les uns aux autres. Il y a des exceptions.
Il y a beaucoup de films qui sont quand même adaptés de
Oui, mais il y a deux ou trois exceptions magnifiques par Visconti qui avait adapté Le Mort à Venise, qui était un chef-d'œuvre total et absolu, et qui a totalement raté L'Étranger de Camus. Totalement.
Moi, j'essaie de travailler sur adapter la Belle de Casa, mais je comprends rien, en fait.
à quelle difficulté vous avez été consulté?
C'est pas notre métier.
De la réflexion à l'image. Là, c'est des images continuelles pendant 90 minutes. Et nous, c'est pas ça. Nous, on s'attarde sur une image pendant une heure, si on veut. Comme on veut, on s'attarde sur une émotion. On l'a décorté. Mais au cinéma, il faut faire en...
L'image.
T'as un peu de jaloux, Jean Boffin. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants. Mais avant ça, on écoute Iliona. Lâche-moi la main.
Les yeux gris, les joues qui se creusent pas du tout.
bienvenue dans l'émission, etc. Nous sommes toujours en compagnie de Tahar Benjelloun et de Jean Boffane. On accueille tout de suite notre libraire belge. C'est l'heure du conseil de la semaine.
Etc. Lilia Hassen.
On part en Belgique à l'occasion de la Foire du Livre de Bruxelles qui se termine dimanche. Et nous retrouvons Aurélie Vergieux de la librairie Molière à Charleroi. Bonjour Aurélie.
Bonjour, bonjour Lilia.
Vous aviez envie de nous parler d'un auteur exceptionnel présent à la Foire du Livre.
Oui, alors il s'agit de Simon Gronowski. C'est un homme au destin vraiment incroyable. En avril 1943, il avait 11 ans et il a sauté du train qui l'emportait de Malines en Belgique jusqu'à Auschwitz. Ce train était le 20e convoi à quitter la Belgique vers ce qui était une destination inconnue pour les personnes à bord, à savoir plus de 1600 déportés juifs, dont 262 enfants. Sa mère Shana et sa sœur Ita, de 7 ans son aînée, ont été déportés 5 mois plus tard dans le 22e convoi et ne sont pas revenus. Son père est mort de chagrin à l'été 1945. Simon a été un enfant caché jusqu'à la fin de la guerre. Et donc à la fin de celle-ci, à 13 ans, il s'est retrouvé tout seul et pendant 50 ans, il a refoulé son histoire pour trouver la force d'avancer. Il est devenu docteur en droit, avocat au barreau de Bruxelles et pianiste de jazz parce qu'il voulait vivre pour l'optimisme, pour l'amitié. Il ne parlait pas de son passé et personne ne lui posait trop de questions. Mais en 1988, un ancien résistant rappelle à la mémoire collective que 3 jeunes gens avaient saboté et fait arrêter ce convoi dans lequel se trouvait Simon, permettant ainsi de sauver 17 personnes. Et c'est à ce groupe de résistants que Simon doit la vie, et ce qu'il gardait jusque-là dans le flou de sa mémoire a refait surface avec une force irrépressible. Il était temps pour lui de raconter et d'écrire son histoire.
Et est-ce que Simon a trouvé la force de se plonger dans ce passé traumatique, Aurélie ?
Eh bien, oui, Lilia, c'est une belle anecdote. Il a enfin ouvert une malle qu'il possédait depuis toujours, sans oser l'ouvrir. Et cette malle, elle contenait des photos d'avant-guerre, elle contenait l'histoire de ses parents, de sa sœur. Il a mis plus de 10 ans à faire face à son destin et à rédiger son témoignage. En 2002, a paru son livre, L'enfant du 20e convoi vers Auschwitz, aux éditions Luc Pire. Et les éditions Racine en font aujourd'hui une nouvelle édition. À ce jour, Simon Gronowski est âgé de 93 ans et il continue de témoigner dans les écoles, dans les librairies et dans les salons. Et quelle chance pour nous de pouvoir le lire, de pouvoir l'écouter. Il dit qu'au terme de son récit, ils sont deux. D'abord, un homme âgé occupé à écrire, et un enfant de 11 ans fuyant la barbarie. Il parle à l'enfant qui est en chacun de nous, car il croit en la bonté humaine. Et en ces temps incertains, Lilia, où on parle de Troisième Guerre mondiale, je crois qu'il est vraiment plus qu'urgent de transmettre le message de paix de Simon Gronowski et de faire entendre sa parole, si bouleversante et profondément humaniste. C'est celle d'un enfant inconsolable, dont les mots pourtant nous consolent.
Bah écoutez, merci Aurélie, on sent votre émotion et ça donne envie de découvrir ce livre. Je rappelle le titre, L'enfant du 20e convoi vers Auschwitz de Simon Gronowski aux éditions Racine. Un petit mot aussi pour saluer la lauréate du prix Première 2025, Pauline Valade, pour son roman Bruno et Jean chez Actes Sud. Un premier roman qui vient d'être primé à la Foire du Livre de Bruxelles et qui raconte l'histoire vraie de 2 amants. Les 2 derniers homosexuels à avoir été exécutés en France, c'était en 1750. Mais ce roman reste hélas d'actualité à l'échelle du monde. Voilà, c'est la fin de cette émission. On recommande vos livres, Tahar Benjelloun et Jean Boffane. Tahar Benjelloun, c'est « Ils se sont tant aimés » aux éditions Gallimard. On recommande aussi le premier tome, « Les amants de Casablanca » qui vient de sortir en poche. Si vous voulez lire une belle histoire d'amour qui finit bien par les temps qui courent, c'est précieux. Merci Tahar Benjelloun et
merci à vous.
À vous, Incoli Jean Boffane, pour « Nation cannibale » aux éditions De Noël, un récit incisif sur les systèmes d'oppression au sens large. Vous serez en dédicace dimanche, à la Foire du Livre de Bruxelles. Un mot de remerciement aussi à nos libraires du jour, Aurélie Vergieux, Katia Courtois et Sandrine Babu. Je rappelle qu'Etc. est une émission France Inter en coproduction avec les médias francophones publics. Merci enfin à mon équipe, Lilian Allôme à la réalisation, Stéphane Beaufis à la technique, Estelle Gap, Virginie Rouzic et Manon Grandière. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.